Voici un enseignement donné dans le cadre de l'église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite partagé, avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour celui qui l'écoute.
Je vous invite, pour ceux qui ont des Bibles, de les ouvrir. Donc Matthieu 28, de 18 à 20, et Romains 6, de 1 à 12. Et nous entendrons maintenant la lecture.
Oui, nous lisons la fin de l'évangile de Matthieu. Matthieu 28, verset 18. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Maintenant, oui, dans Romains 6, les versets 1 à 12. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Certes non. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort, par le baptême, afin que, comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Nous savons que notre vieille nature a été crucifié avec lui, afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance, et que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est quitte du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité d'entre les morts ne meurt plus, la mort ne domine plus sur lui, car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes, et maintenant qu'il vit, il vit pour Dieu. Ainsi, vous-même, considérez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Christ Jésus. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises.
Nous croyons dans cette Église que nous avons besoin du Saint-Esprit pour comprendre ce que Dieu veut nous dire par sa parole révélée, la Bible. Comme il n'est pas possible d'avoir de pluie sans eau, on se rend compte aujourd'hui, eh bien nous comptons aussi sur l'œuvre du Saint-Esprit en nous, afin que son eau nous donne la pluie de la compréhension de notre âme. Cela vaut autant pour moi qui vous parle et qui écoute que vous qui écoutez. C'est aujourd'hui un jour de baptême, un jour de joie particulière, car le baptême est le témoignage extérieur d'une œuvre intérieure du Dieu Tout-Puissant. C'est un acte d'obéissance qui marque officiellement celui qui est devenu enfant de Dieu. C'est une allégeance publique à un roi. Le roi, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui qui a institué le baptême en illustrant son œuvre salvatrice et sa relation avec son peuple. Le baptême est destiné à rendre gloire à Jésus-Christ et à fortifier et bénir son peuple. Et donc ma prière ce matin, mes chers frères et sœurs en Christ, c'est que nous soyons encouragés, fortifiés par l'œuvre de Christ. Ce matin, nous chercherons à répondre à deux questions, tout en sachant que le sujet est beaucoup plus vaste que le temps que j'ai pour vous l'aborder. Mais ces questions sont celles-ci. Pourquoi Jésus a-t-il institué cette ordonnance ? Pourquoi Jésus a-t-il institué le baptême ? Et deuxièmement, que peut symboliser le baptême ? Si vous avez envie de creuser un peu le sujet, alors un petit peu, vous pouvez lire une brochure d'une vingtaine de pages, ce qui s'appelle le baptême, symbolisme et but de Peter Masters, hein, qui m'a donné la base pour cette prédication. Stan Sands a demandé à être baptisé et a suivi un cours de préparation et a pu donc réfléchir, comprendre qu'est-ce que la signification du baptême. Il a par exemple lu le chapitre sur le baptême dans la Confession de foi de 1689 qui explique ce que nous croyons dans cette église locale. Et en fait, je vais vous lire le chapitre. C'est pas long, hein. C'est qu'une page. Qui dit ceci. Le baptême est une ordonnance du Nouveau Testament instituée par le Seigneur Jésus de sorte qu'il représente pour le baptisé un signe de communion avec Christ dans sa mort et sa résurrection, de son insertion en lui, de la rémission des péchés et de l'offrande de sa propre personne à Dieu par Jésus-Christ pour vivre et marcher en nouveauté de vie. De fait, ceux qui professent la repentance envers Dieu et la foi, ainsi que l'obéissance au Seigneur Jésus-Christ, sont les seuls sujets aptes à recevoir cette ordonnance. L'élément extérieur à utiliser dans cette ordonnance est l'eau, dans laquelle le candidat est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et dernier point, l'immersion, ou le fait de plonger la personne dans l'eau, est nécessaire pour que cette ordonnance soit légitimement administrée. Ayant lu cela, on a la même définition maintenant du baptême, tous en tout cas de ce qu'on parle ici. Alors, réfléchissons, mais pourquoi Jésus a-t-il institué cette ordonnance? Nous allons développer trois raisons qui vont de l'intérieur quelque part à l'extérieur. La première, c'est pour affermir les chrétiens, ou celui qui se fait baptiser. Deuxièmement, pour inspirer l'Église. Et troisièmement, pour avertir le monde. Alors la première raison sera plus développée, il concerne celui qui se fait baptiser, ceux qui se sont fait baptiser et ceux qui se feront baptiser. Donc, pour affermir le chrétien. Celui qui se fait baptiser est affermi par cet acte d'obéissance en manifestant une œuvre de Dieu. Alors afin de bien retenir des éléments de cette première raison, nous allons donner cinq affirmations et quelques petites explications pour chaque affirmation. La première, c'est que le baptême affermit le chrétien car il explique l'œuvre de Dieu en lui et le met en lumière, et il met en lumière ce que Dieu a fait en lui. Le baptême affermit le chrétien car il explique l'œuvre de Dieu en lui et il met en lumière ce que Dieu a fait en lui. En fait, le témoignage du baptême amène le chrétien à s'extérioriser, à le dire. Il est appelé à témoigner. Si vous faites baptiser, il faut témoigner, comme Stan va le faire tout à l'heure. Ainsi, il va agir selon Romains 10 qui dit « Que dit-elle donc ? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car en croyant du cœur, on parvient à la justice. En confessant de la bouche, on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera pas confus. » Ça, c'était Romains 10, versets 8 à 11. Donc, lors du baptême, le chrétien témoigne de l'œuvre de Dieu en lui, ainsi glorifie Jésus-Christ, son Seigneur et son Sauveur. Le fait de préparer son témoignage permet aussi de réfléchir à sa vie, de faire un peu de l'ordre dans ses pensées, de penser de la manière à laquelle comment on pourrait parler de ce que Dieu a fait dans notre vie. Et cela devrait être le début d'un témoignage continuel qui sera agrémenté par tout ce que Dieu va continuer à faire dans notre vie. Donc dès que nous nous baptisons, nous commençons un témoignage continuel en fait. Deuxièmement, le baptême affermit le chrétien car il concrétise son obéissance à Jésus-Christ par un acte demandé. Il concrétise son obéissance à Jésus-Christ par un acte demandé. Jésus a démontré une obéissance parfaite à son Père pour que nous soyons sauvés. Si Jésus n'avait pas obéi parfaitement, nous ne serions pas sauvés, puisqu'il devait être parfait pour prendre sur lui nos fautes et pas les siennes. Il était jusqu'à mourir pour que le chrétien soit libéré de son péché. Sa nourriture, disait Jésus, c'est de faire la volonté de son Père. Et le chrétien est quelqu'un qui vit pour son roi, qui est Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit, par l'apôtre Paul, indique ce que vit un croyant qui ira jusqu'à dire « Je suis crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'aime et qui s'est livré lui-même pour moi. » Par Jean, Jésus nous a dit, et c'est Jésus qui a dit ces paroles, hein, il était à côté, l'apôtre Jean, il a dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Jésus donne le commandement de se faire baptiser. Comme nous l'avons lu dans Matthieu 28, 20. Ainsi, obéir à Dieu est un acte simple, mais qui demande de l'humilité. Le baptême, en fait, il ne permet pas d'individualité, ni la liberté d'expression. Il ne fait pas de distinction entre les classes, la provenance, les moyens, le sexe, l'âge ou la couleur de la peau. Cet acte n'a pas changé de forme pour ceux qui le suivent selon la Bible tout au long de l'histoire. Nous baptisons de la même manière que les premiers disciples ont baptisé selon les récits explicites comme Philippe avec l'Éthiopien. Un acte en fait simple et accessible à tous comme œuvre d'obéissance. Donc le baptême affermit le chrétien car il concrétise son obéissance à Jésus-Christ par un acte demandé. Troisièmement, le baptême affermit le chrétien car il grave dans sa mémoire l'œuvre de Christ en le manifestant publiquement. Le baptême affermit le chrétien car il grave dans sa mémoire l'œuvre de Christ en lui manifestée publiquement. Or tout le monde n'est pas capable de dire à quel moment sa nouvelle naissance a eu lieu. D'ailleurs, qui en est vraiment capable? Mais tout le monde est capable de voir si en fait il se repent devant ses péchés et place sa foi en Jésus-Christ, son roi, pour le servir. Ça, on peut le savoir. Est-ce que le péché m'amène à la repentance? Est-ce que je veux vivre pour Christ? Est-ce que je vis réellement pour lui? En tout cas, je mets toutes mes forces pour le faire. Ça, chacun peut le voir. Et le baptême permet d'avoir un point de repère historique et temporel d'un témoignage officiel et public du constat de l'œuvre transformatrice de Dieu dans le chrétien qui désire vivre une vie pour Jésus-Christ. Vous savez, dans l'Ancien Testament, on a pas mal d'exemples où Dieu demande de poser quelque chose, des pierres ou différentes choses, pour se souvenir de son œuvre. Par exemple, lorsqu'ils ont traversé les eaux du Jourdain, ils ont mis des pierres au milieu, ils ont dû en sortir puis les prendre avec eux, 12 pierres. Puis quand les enfants demandent c'est quoi, eh bien voilà, on peut parler de qu'est-ce que Dieu a fait. Donc c'est quoi le baptême? Eh bien voilà, on peut parler de ce que Dieu a fait dans ma vie. Donc ça c'était le troisième élément qui affermit le chrétien. Quatrième élément, le baptême affermit le chrétien car il manifeste de la gratitude et de l'assurance. Il manifeste de la gratitude et de l'assurance. En fait, le chrétien qui se fait baptiser en faisant ce que son roi Jésus-Christ lui demande, manifeste en fait qu'il est reconnaissant de pouvoir dire à tous ce que Dieu a fait pour lui. En fait, quand on a reçu un cadeau extraordinaire, on en veut dire à tous les autres qu'on a reçu ce cadeau et de qui on l'a reçu. Car nous savons que lorsque nous partageons notre reconnaissance, elle augmente. Saviez ça? Quand on partage notre reconnaissance, elle augmente. Plus on en parle, plus elle augmente. Comme du gaz dans le feu. Plus on met du gaz, plus il y a du feu. Le chrétien qui se fait baptiser sait aussi qu'il est sauvé quand il se fait baptiser. Et il s'appuie non pas sur son assurance personnelle, mais sur le fait que Christ a tout accompli et qu'il lui donne cette promesse. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne les arrachera de ma main. Cinquième élément. C'est le dernier de cette première chose qui nous affermit. Donc le baptême affermit le chrétien car il prend ses responsabilités de manifester extérieurement ce que Dieu a fait intérieurement. En fait, le chrétien qui se fait baptiser ne reste pas dans l'ombre, laissant la possibilité de ne pas être reconnu selon les circonstances. Il annonce publiquement, se faisant baptiser, qu'il appartient à Jésus-Christ avec les conséquences que cela peut avoir. Ceux qui ne comprennent pas que Dieu peut faire une œuvre intérieure, ceux qui n'acceptent pas les valeurs du royaume de Dieu mis dans son cœur, ceux qui s'opposent au jugement et à la grâce de Christ, ne sont pas toujours sympathiques et tolérants. Celui qui se fait baptiser dit en quelque sorte « Je veux être fidèle à Dieu, même là où il est rejeté. » Et en le disant publiquement, en fait, il s'affermit et se rend responsable. Nous venons de voir donc cinq éléments qui indiquent que Jésus a institué le baptême pour affermir le chrétien. Il témoigne de sa foi, il concrétise son obéissance, il grave cela dans sa mémoire, il manifeste de la gratitude et de l'assurance et il prend ses responsabilités. Comme j'en ai parlé tout à l'heure, il y a une deuxième raison qui est l'inspiration de l'Église. Jésus a institué le baptême pour inspirer l'Église. Alors le baptême inspire l'Église car il rappelle la conversion et l'état de chaque croyant dans l'Église. En vivant le baptême, chaque personne qui est entrée dans le peuple de l'Alliance, qui est le corps de Christ, l'Église, se rappelle que la repentance et la foi font partie de sa manière de vivre dans ce peuple de l'Alliance. Et qu'un jour, il a aussi témoigné du début du changement de vie que Dieu opère en lui. Donc quand quelqu'un se fait baptiser, tous ceux qui sont faits baptiser se souviennent de leur baptême. Dans la brochure de la Gospel Coalition, donc intitulée « L'Évangile et le peuple de Dieu », nous trouvons ce passage en lien avec cette affirmation. Je le trouve intéressant, donc je vais vous le lire. « Chaque fois qu'un croyant assiste à un baptême, il est assisté à cultiver le sien. Cultiver son baptême signifie méditer sur les bénédictions qu'il représente, le mettre en pratique, à en tirer pleinement parti, retirer tous les profits possibles de ce moyen de croissance dans la grâce, particulièrement lorsque nous assistons à son administration dans le cadre d'un culte public. » Donc le baptême de Stan aujourd'hui rappelle le baptême de tous ceux qui se sont fait baptiser ici aujourd'hui. Deuxième élément, le baptême inspire l'Église car il encourage le moral, voyant que Dieu ajoute à l'Église. Dans le livre des Actes, lorsqu'il parle de la Pentecôte, il est dit « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là furent ajoutés environ 3000 âmes. Et le Seigneur ajoutait chaque jour ceux qui étaient sauvés. » Donc lorsque quelqu'un se fait baptiser, toute l'Église est encouragée. C'est un moment de joie parce que nous reconnaissons l'œuvre et la grâce de Dieu qui ajoute des personnes à l'Église. Des personnes qui seront sauvées pour l'éternité si la persévérance authentifie ce témoignage. Donc c'est un jour de grande joie en fait. L'Église prie, l'Église est là pour annoncer l'Évangile et puis quand des personnes viennent à Dieu, mais on s'en réjouit. On n'est pas en train de dire « bon, suivant ». Non, il faut se réjouir et de voir l'œuvre de Dieu. Troisième élément, le baptême inspire l'Église car il rappelle la nécessité et l'importance de l'évangélisation. Il rappelle la nécessité et l'importance de l'évangélisation. À chaque baptême, nous nous rappelons ce que Jésus a dit dans Matthieu 28. On l'a lu tout à l'heure. « Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin des baptêmes. » Enfin, jusqu'à la fin du monde. En fait, jusque-là, il y aura des baptêmes. Et ce n'est qu'à la fin du monde que tout s'arrêtera. En attendant, nous allons continuer à faire des disciples de Jésus-Christ. C'est une des principales raisons de l'existence de l'Église. Jésus a donc institué le baptême aussi pour rappeler régulièrement l'état de chaque croyant dans l'Église. Pour nous dire, mais est-ce que je vis encore ce que j'ai confessé il y a quelques années? 2, 5, 10, 20, enfin, on peut calculer le temps depuis que vous êtes fait baptiser. Et qui nous rappelle la nécessité d'évangéliser. La troisième raison qui a été évoquée, c'est pour avertir le monde. Donc pour affermir le chrétien, pour inspirer l'Église, pour avertir le monde. Le baptême donne un message clair en mettant une démarcation entre les baptisés et les non-baptisés. Le baptême n'est pas un acte qui donne le salut, mais un acte qui proclame le salut. Celui qui est sauvé ne se fait pas baptiser, celui qui est sauvé et qui ne se fait pas baptiser est dans la désobéissance au roi Jésus-Christ qui a ordonné le baptême. Il ne se démarque pas du monde et empêche de faire une claire distinction entre celui qui est sauvé et celui qui ne l'est pas. C'est vrai qu'il peut arriver que des personnes soient baptisées et qu'ensuite Elles démontrent par leur vie qu'elles ne sont pas sauvées. Mais alors l'Église indique cela clairement par la discipline, qui a d'ailleurs toujours pour but, non pas d'écarter, mais toujours de faire revenir à Jésus-Christ pour être sauvé. C'est assez étonnant que notre société, qui fait assez facilement des démarcations, je ne sais pas si vous avez déjà vu, que l'on veuille souvent ne pas faire de démarcation claire entre ceux qui sont sauvés et ceux qui ne le sont pas. Pour plein d'autres choses on veut, mais pas pour ça. Mais si une personne n'en a rien à faire de Jésus-Christ et, et de sa parole, pourquoi il ne veut pas accepter que, selon sa parole, il est sous le jugement de Jésus-Christ, qu'il mérite la condamnation éternelle? Si quelqu'un est en Christ, pourquoi ne voudrait-il pas être clair quant à la perdition de ceux qui ne croient pas en lui? Parce que si ce n'est pas clair, il n'aura aucune motivation à transmettre la bonne nouvelle du salut. Le baptême indique qu'il y a ceux qui sont dans le royaume et ceux qui sont hors du royaume. Et c'est important que ceux qui n'y sont pas puissent y entrer, donc puissent savoir qu'ils n'y sont pas pour y entrer. Vous savez, un des plus grands mensonges de l'ennemi de Dieu est de faire croire à quelqu'un qu'il est sauvé alors qu'il ne l'est pas. C'est extraordinaire ça. Si vous désirez que quelqu'un meure, qu'il est atteint d'une maladie mortelle qui va être assez rapide et que l'on peut soigner par un médicament, il faut juste lui faire croire qu'il n'est pas malade. Et il ne prendra pas le médicament et il mourra en croyant être en bonne santé. Cette raison du baptême que Jésus a instituée est un avertissement pour chacun qui entend ces paroles. Nous ne pouvons que dire, mais venez à Jésus-Christ pour être libéré du poids de vos péchés. Et vous allez vous faire baptiser ensuite. Ce n'est pas libéré pour qu'on vous pousse à baptiser, non. C'est plutôt lorsque nous sommes transformés, nous avons envie de vivre ce que le roi Jésus-Christ nous demande de vivre. Et nous réjouir d'être un témoin pour lui, parce qu'il nous a donné une nouvelle vie, un salut que nous voulons partager. Maintenant que nous avons pris un peu de temps pour parler des raisons pour lesquelles Jésus nous a ordonné le baptême, nous allons prendre quelques minutes pour réfléchir à ce symbole. Alors ce sera assez bref pour donner des pistes et ce ne sera pas exhaustif pour tout expliquer. Mais que peut symboliser le baptême? Nous verrons quatre éléments relativement rapidement. Premièrement, le baptême symbolise l'obéissance. Le baptême symbolise le pardon et le baptême symbolise la vie nouvelle et le baptême symbolise l'identification à Christ. Alors prenons le premier, l'obéissance. Alors, nous en avons déjà parlé lors de la concrétisation de l'obéissance qui affermit le chrétien. Le chrétien qui se fait baptiser, ça affermit sa foi, c'est vrai, parce qu'il obéit. Rappelons-nous qu'il n'y a qu'un seul chemin pour être sauvé. C'est Jésus-Christ qui dit clairement, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi » dans Jean 14, 6. Et il n'y a qu'une manière d'entrer dans le royaume de Dieu. Et Jésus le dit, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle, Marc 1, 15. Et vous savez, c'est un peu humiliant d'aller se faire plonger dans l'eau devant tout le monde. Mais ça symbolise l'humilité de la repentance, qui est la même pour tous, que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, que vous soyez jeune, que vous soyez vieux. C'est la même chose, c'est le même baptême, parce que c'est le même salut. Le baptême que tous les chrétiens sont appelés à vivre indique qu'il n'y a qu'un seul moyen, obéir à l'appel de la repentance, c'est croire et se soumettre à la seigneurie de Jésus-Christ. Donc, le baptême symbolise et exprime l'obéissance de la foi aux paroles de Jésus-Christ qui mène au salut. Deuxièmement, deuxième symbole, le pardon symbolise clairement le baptême symbolise clairement le pardon. Je suis un peu fatigué apparemment, mais vous êtes présents, ça va. En se faisant baptiser, nous disons « J'ai été entièrement pardonné, entièrement purifié, entièrement lavé par la miséricorde de Dieu qui pardonne. » Alors pour que le symbole soit clair et compréhensible, une personne est complètement immergée dans l'eau, ce qui démontre une purification totale. Rien ne reste en dehors du pardon de Dieu. Rien ne peut ne pas être purifié. Mais rien ne peut être purifié par nous-mêmes, puisque rien ne reste à l'extérieur. Il n'y a pas d'autre moyen pour être pardonné que Jésus-Christ. Deuxième symbole, le baptême symbolise le pardon, la purification totale par son immersion. Troisième symbole, le baptême symbolise un changement de vie, une vie nouvelle, une résurrection, comme le dit le Saint-Esprit par Paul aux Corinthiens. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, et tout cela vient de Dieu. Et le texte de Romains que nous avons lu tout à l'heure est clair quant à cette identification à Jésus-Christ. Je reprends juste le verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts pour la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Alors ce texte est écrit pour contrer ceux qui disent « Puisque Dieu pardonne nos péchés, nous pouvons pécher, il pardonnera ». Mais ce texte nous permet de répondre, mais non, quand Dieu pardonne, il transforme. Quand Dieu pardonne, il transforme et nous devons nous considérer comme morts au péché, donc nous en détourner. Et celui qui a reçu la nouvelle nature ne peut plus pécher tranquillement. Cela ne fait plus partie de son ADN, même si l'habitude est encore très 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 profonde dans nos cœurs, c'est vrai, nous pouvons le dire. Mais on ne peut pas pécher tranquillement. Pas de souci, on pêche, non ? Parce que la nature que Dieu nous a donnée, l'esprit qu'il nous a donné, nous reprend et nous pousse à la repentance. Mais pas pour nous faire du mal, pour être délivré, pour être libre. L'immersion complète de la personne dans l'eau permet de comprendre ce symbole de la mort. Et en ressortant de l'eau, la réception d'une vie nouvelle. Se rappeler de son baptême, c'est se rappeler avec joie d'avoir changé de vie. Vous connaissez peut-être cette petite histoire de... Augustin qui rencontre quelqu'un qu'il n'avait plus vu depuis longtemps, puis la personne qui dit, avec qui d'ailleurs il avait fait toutes sortes de choses qui étaient immorales et tout ça, et puis il s'était converti, et puis cette personne dit, hey, salut Augustin! Puis il passe, il dit rien, puis il dit, hey, salut! Puis il dit, oh mais c'est pas toi! Puis il dit, oui c'est moi, mais c'est pas moi. Parce que je ne suis plus le même, je ne suis plus l'Augustin d'avant. Donc c'est moi, mais c'est pas moi. C'est exactement ce qui arrive en fait. C'est que Dieu nous donne une vie nouvelle. Et c'est ce qui est symbolisé par la mort, l'immersion, et ensuite la réception d'une vie nouvelle. Donc le baptême symbolise la mort à l'ancienne vie et la réception d'une vie nouvelle qui se détourne du péché. Quatrième symbole, il symbolise l'identification à Jésus-Christ. D'ailleurs, bien des personnes se demandent pourquoi Jésus s'est fait baptiser. Pourquoi Jésus s'est fait baptiser ? Car lorsque nous parlons du baptême de Jean, puisqu'il s'agissait du baptême de Jean, nous parlons du baptême de repentance. Et Jésus n'a jamais dû se repentir, il n'a jamais péché. Mais lorsque Jésus s'est fait baptiser, il a amené un autre aspect du baptême. C'est celui de l'identification. Le Saint-Esprit dans Hébreu dit « Aussi devait-il devenir en tout semblable à ses frères, afin d'être un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. » Alors l'expiation, ça veut dire quoi ça ? C'est drôle de mot, hein ? Expier. Expier, ça veut dire payer à la place. Voilà, payer à la place de l'autre. Donc Jésus a dû s'identifier à nous pour expier les péchés de son peuple. Il s'est identifié à nous pour expier et nous nous identifions à lui pour recevoir sa justice, son acte d'expiation et sa sainteté. Nous nous identifions à lui par le baptême, comme il s'est identifié à nous par son baptême. Jésus montre toujours l'exemple, toujours. Et nous pouvons donc nous poser cette question quand nous vivons, quand nous ne savons pas exactement si notre choix il est bon ou pas, est-ce que Jésus pourrait être là où je suis ? Je discutais l'autre jour avec Marley, je disais, mais c'est vrai, en fait, dans les lieux où je ne suis pas trop sûr est-ce que je vais ou pas, je me dis, ben, je peux dire aux personnes, je peux prendre Jésus avec moi. Puis si les gens réagissent d'une manière opposée, hostile, dire, mais pas du tout, bon, il y en a qui vont dire, on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire, ok, ça c'est, pas du tout, ben, je me dis, ben, si lui ne peut pas venir, ben, peut-être que moi je ne peux pas non plus, en fait. Est-ce qu'il peut faire ce que je suis en train de faire ? Quand on dit « Christ vit en moi », il y a une implication dans ce que je vis. Est-ce que ce que je suis en train de dire, ce que je suis en train de faire, il pourrait le faire ? C'est l'identification. Le baptême symbolise donc l'identification à Jésus, qui manifeste que désormais nous sommes intimement liés à lui, plus qu'à quoi que ce soit d'autre. Or, nous avons rapidement vu quelques symboles du baptême. Vous avez vu, là, j'ai fait quelques minutes, en fait. Hein. Ils symbolisent l'obéissance de la foi, le pardon total, la mort et la réception d'une nouvelle vie, et l'identification à Jésus-Christ. Et je vous encourage à méditer sur le baptême, à découvrir encore d'autres richesses. Mais pour aujourd'hui, nous arriverons à notre conclusion. Tout en ayant toujours en tête, quand on médite sur le baptême, ce n'est pas le baptême qui est notre thème principal. C'est l'œuvre de Christ qu'il symbolise, évidemment. Et savez-vous que même dans le ciel, peut-être pour ça qu'il pleut, hein, le baptême signifie quelque chose d'important. C'est un témoignage devant le monde invisible de la repentance d'un pécheur. Jésus a dit dans Luc 15:7 qu'il y a de la joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent. Il y a de la joie. Alors Stan est le chrétien qui se fait baptiser aujourd'hui et qui est affermi par son acte d'obéissance. L'Église est inspirée par ce qui se passe aujourd'hui. Le monde est averti que nous sommes soit sauvés, soit perdus. Comme nous sommes soit vivants, soit morts. En fait, il n'y a pas d'intermédiaire. C'est vrai que certains sont parfois très proches de la mort, mais il n'y a pas d'intermédiaire. On est soit vivant, soit mort. Donc maintenant, dans la minute dans laquelle nous sommes, vous êtes soit sauvés, soit perdus. Il n'y a pas d'alternative. Et le baptême symbolise donc des réalités pour Stan et tous ceux qui se sont fait baptiser avant lui et qui le feront après lui. Stan exprime une obéissance à Dieu. Stan est totalement pardonné. Stan est mort à son ancienne vie et a reçu une vie nouvelle dans laquelle il progresse. Et Stan est identifié à Jésus-Christ. Le baptême marque l'entrée visible dans la communauté de l'Alliance, qui est le corps de Christ, qui est aussi appelé l'Église de Dieu. Et nous sommes donc très heureux d'accueillir Stan et de pouvoir l'appeler frère dans la foi, recevant en quelque sorte aujourd'hui le passeport qui déclare qu'il est en Christ. Alors que tous ceux qui ont reçu ce passeport se réjouissent et vivent selon ce passeport étant des petits Christ. C'est ce que signifie le terme chrétien en fait. À la suite de notre maître, marchant dans la grâce et la sanctification. Et que tous ceux qui n'ont pas reçu ce passeport réfléchissent sérieusement, sachant que l'entrée dans le royaume promis passe par un changement d'identité qui sera ensuite manifesté public par ce passeport qui mène à l'obéissance visible du roi sauveur. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous voulons venir devant toi pour te louer et t'adorer parce que si nous avons parlé ce matin des raisons d'un baptême ou même des symboles, c'est que ce n'est pas le baptême lui-même qui est pour nous la plus grande joie, c'est ton œuvre qu'il manifeste. C'est le fait que toi-même tu l'aies même demandé, parce que ce que tu demandes est bon. Et nous voulons, Seigneur, nous réjouir de cette grâce de pouvoir regarder à toi. J'aimerais te prier, Seigneur, pour tous ceux qui se rappellent de leur baptême, que chacun puisse être fortifié, béni, encouragé. Et si nous sommes repris en pensant à notre baptême, eh bien que ce ne soit pas d'être repris pour s'éloigner de toi, mais pour s'approcher de toi et se réjouir que tu es ce Dieu qui accueille, tu es ce Dieu qui ne nous rejette jamais lorsque nous venons repentant à toi. J'aimerais Seigneur te prier pour ceux qui peut-être n'y comprennent rien, se dire c'est quoi ce baptême? Eh bien j'aimerais Seigneur te prier vraiment de permettre que la première chose à comprendre, c'est peut-être pas le baptême, mais c'est le fait que tu es Dieu, que nous sommes des hommes, que nous te devons le respect et que nous nous rendons compte que nous avons péché dans notre vie, nous avons fait des fautes qui étaient contre toi et nous méritons d'être écartés de toi. Mais toi, tu es venu en Jésus-Christ, tu es venu vivre ce baptême quelque part de la croix aussi pour que nous puissions être purifiés, lavés de tout péché. Tu as pris à notre place, tu as payé le prix. Nous n'avons plus de dette pour ceux qui se repentent. Eh bien, permets, Seigneur, que chacun ici puisse être encouragé, non seulement une fois dans sa vie, mais chaque jour, parce que nous savons que ta grâce est immense, tellement immense, qu'elle n'a pas de limite dans la demande de pardon que nous pouvons faire. Aide-nous, Seigneur, à vivre chaque jour d'une manière plus en lien avec qui tu es, afin d'être heureux en toi. Te remercions pour Stan, je te prie de le bénir aussi tout particulièrement, de le fortifier aussi dans son cheminement et de lui donner ta paix, particulièrement encore ce matin, dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez profiter d'autres ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.